Une production des studios Bass.
L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation.
Tesla produira les modèles Y d'ici la fin de l'année dans la Gigafactory d'Allemagne. C'est 355 000 véhicules à énergie nouvelle qui ont été vendus en Chine en septembre seulement. Toyota investira 3,4 milliards de dollars US dans la fabrication de batteries pour automobiles. C'est maintenant annoncé, c'est la fin de la Nissan Leaf dans sa version actuelle. En grande entrevue, nous avons Stéphane Pascalon qui va nous parler du projet e-Roule.
En véhicule électrique, donc on est rendu à plus de 1,6 million de kilomètres depuis le début du projet en véhicule électrique, ce qui correspond à une réduction des GES de plus de 30 tonnes en date d'aujourd'hui.
Tout ça et bien plus encore dans la 113e de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le podcast dédié 100% aux voitures électriques. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon deux semaines. Écoutez, au moment où sort ce podcast, donc le 22, la publication est le 22, nous sommes en plein en enregistrement de notre 100e épisode en retard, donc c'est un peu mêlant tout ça. Donc on écoute actuellement un épisode qui est le 113e épisode, mais on avait sauté par-dessus l'épisode 100 et là on est en train de le faire, une captation devant public au Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe. Cet épisode spécial sera diffusé très bientôt, donc les gens qui n'ont pas la chance d'être sur place, vous allez pouvoir l'écouter. Un épisode où essentiellement on fait l'historique du podcast, d'où ça vient, comment est née l'idée, toute l'histoire, comment le podcast a évolué au fil des 5 dernières années. Plein d'informations intéressantes, de statistiques sur le podcast, des bloopers qui sont arrivés au fil des années. Tous nos collaborateurs et nos chroniqueurs vont pouvoir vous expliquer un peu ce qui les a amenés vers le podcast, des invités spéciaux. Alors, ne manquez pas ça très bientôt, cet épisode tout à fait spécial de la 100e de Silence on roule. Et ça se passe, comme je vous ai dit, l'enregistrement au Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe, qui est le dernier d'une série de plusieurs salons du véhicule électrique. On parle de Montréal, Saguenay, Québec et là, Saint-Hyacinthe. On commence à avoir de la boue dans le toupette. C'est tout arrivé dans le même mois et demi à peu près. Donc, plusieurs personnes se sont déplacées pour venir voir les nouveaux modèles de véhicules qui seront bientôt sur le marché, les modèles attendus des différents manufacturiers. Dans une période où, ma foi, l'approvisionnement est un peu difficile, vous le savez, dans le véhicule électrique, comme dans tout type de véhicule, finalement, la pénurie là, de puces électroniques fait en sorte que plusieurs modèles de véhicules sont en retard de production, donc très peu de disponibilité chez les concessionnaires. En même temps, on annonce les nouveaux modèles qui vont sortir en 2022-2023. On commence à voir un peu ce qui s'en vient. Plein de modèles intéressants à venir. Donc, de toute façon, aller à ces salons-là, c'est l'occasion de voir les nouveaux trucs qui sont sur le marché. Parler aussi avec les gens qui travaillent pour les différents manufacturiers puis aller glaner un peu d'informations là, puis voir un peu venir tout ça. Si vous êtes intéressé à soit changer ou acquérir pour la première fois, un véhicule électrique. Aujourd'hui, on a une émission où on va traiter particulièrement du projet e-Roule, donc un projet de sensibilisation à l'électromobilité qui passe par les écoles de conduite. On avait interviewé il y a quelques temps une école de conduite là, qui a des voitures 100% électriques, mais là, c'est un projet qui touche une multitude d'écoles de conduite à travers la province. Alors, on va en parler dans quelques instants, donner un peu d'informations puis voir ce qui en retourne de ce projet-là. C'est vraiment intéressant. Mais sans plus tarder, je vous propose qu'on aille tout de suite aux actualités dans le monde du véhicule électrique.
Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres Teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nano-céramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nano-céramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitre Teintée est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 Boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitre Teintée. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez.
L'actualité dans le monde des VE.
Elon Musk a déclaré lors de la journée porte ouverte de la nouvelle Gigafactory de Tesla près de Berlin le week-end dernier que la société avait l'intention d'y entreprendre la production de ses voitures modèle Y avant la fin de l'année. Selon Bloomberg, le PDG a ajouté que l'usine devrait produire entre 5 000 et 10 000 véhicules par semaine d'ici la fin 2022. Mais Tesla attend toujours l'approbation finale alors que les autorités locales évaluent son impact environnemental. La Global EV Drivers Alliance, dont fait partie l'Association des véhicules électriques du Québec, appelle les dirigeants de nos pays respectifs à s'engager pour rendre électrique rechargeable tous les nouveaux véhicules vendus d'ici 2030 et à partir de 2035 uniquement des véhicules purs électriques. Vous pourrez signer la déclaration pour apporter votre soutien. Le lien sera donné en référence au podcast. Nous, les conducteurs de véhicules électriques du monde entier, signataires de ce message, appelons les dirigeants des 28 pays représentés dans la Global EV Driver Alliance à s'engager à ce que 100% des ventes de véhicules légers neufs soient rechargeables d'ici 2030 et soient à vente uniquement des véhicules électriques zéro émission d'ici 2035. Nous relevons ce défi alors que les dirigeants mondiaux se préparent pour la conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP26 à Glasgow du 31 octobre au 12 novembre 2021. Le changement climatique a déjà un impact dévastateur sur notre planète, provoquant la fonte des glaciers, l'élévation du niveau de la mer, des sécheresses et des vagues de chaleur plus sévères et des conditions météorologiques dangereuses. Cela a entraîné d'importantes pertes de vie humaine et des impacts sur la santé humaine et une destruction de l'environnement qui feront qu'empirer au fil des années. Nous devons agir maintenant pour atténuer les effets de gaz à effet de serre. En septembre, c'est environ 357 000 véhicules à énergie nouvelle qui ont été vendus en Chine. Les véhicules tout électriques, les hybrides rechargeables et les véhicules à pile à combustible représentaient conjointement 17,3% du marché. BYD continue d'être la marque la plus en demande. C'est un total de 2 065 000 véhicules qui ont été vendus en Chine le mois dernier, dont 357 000 étaient équipés d'un moteur électrique, alors que le marché global était en baisse de 19,6% par rapport à septembre 2020. Selon les données de l'Association chinoise des constructeurs automobiles, les ventes des véhicules à énergie nouvelle ont augmenté de leur part de 148%. Dans la saga des problématiques avec les piles de Chevrolet Bolt EV et EUV, GM a annoncé la semaine dernière avoir conclu un accord avec LG Electronics concernant le défaut de fabrication qui ont conduit au rappel d'environ 140 000 Chevrolet Bolt. Selon GM, le remboursement compense 1,9 milliard de dollars sur les 2 milliards de dollars associés aux frais de rappel, ce qui permet de couvrir la majorité des coûts encourus jusqu'à présent. Il s'agit d'un développement positif entre les deux sociétés qui se sont associées pour produire des batteries Ultium Cells LLC afin de fournir en cellules de grand format différents modèles de véhicules, dont celles des Bolt EV et EUV, qui alimenteront environ 30 nouveaux véhicules électriques d'ici le milieu de la décennie. Volkswagen a admis la semaine dernière que Tesla et les constructeurs automobiles chinois qui se développent en Europe ont poussé le groupe Volkswagen à accélérer les plans de conversion de son usine principale de Wolfsburg pour fabriquer des véhicules électriques. Tesla, en particulier, soulève une grande inquiétude pour le grand constructeur automobile allemand, car la société américaine commencera bientôt à produire des véhicules électriques dans sa Gigafactory près de Berlin, la capitale allemande. Il ne fait aucun doute que nous devons améliorer la compétitivité de notre usine de Wolfsburg face aux nouveaux arrivants dans le marché. Tesla établit de nouvelles normes de productivité et d'échelle à son usine de Grunwald. Le porte-parole de Volkswagen, Michael Manske, a énoncé avoir des craintes. En représentant et en se faisant, il fait référence à l'usine de construction de Tesla près de Berlin qui aura une capacité de production maximale de 5 000 à 10 000 voitures par semaine, soit plus du double de la totalité de la production allemande de véhicules électriques en 2020, selon Reuters. Dire qu'il n'y a pas si longtemps, elle n'avait de yeux que pour l'hydrogène. Eh bien, Toyota investira maintenant 3,4 milliards de dollars américains, soit 4,2 milliards de dollars canadiens, dans les batteries automobiles aux États-Unis d'ici 2030. Plus précisément, l'objectif de cet investissement est de développer et de produire des batteries automobiles, y compris celles destinées aux véhicules tout électriques, et faire partie de l'investissement mondial d'environ 13,5 milliards de dollars prévu pour le développement et la production de batteries annoncées le mois dernier par Toyota Motors Corporation. Pour favoriser la localisation de la production des batteries, Toyota Motors Nord-America créera également une nouvelle société et construira aux États-Unis une usine de batteries automobiles avec Toyota Tsusho. L'objectif est de démarrer la production en 2025. Nissan a confirmé que le nouveau multisegment électrique compact qu'elle prévoit construire dans son usine de Sutherland au Royaume-Uni remplacera la mythique Nissan Leaf. En juillet, Nissan a annoncé son intention de construire un nouveau multisegment dans le cadre d'un investissement d'un milliard de livres sterling dans son usine pour en assurer la pérennité. Aujourd'hui, le groupe Nissan a confirmé que le nouveau modèle remplacera la Leaf. Prévu pour être lancé en 2025, le multisegment sera basé sur la plateforme CMF-EV de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, également utilisée par Ariya et Mégane E-Tech Electric. Cela signifie que la future gamme de modèles de base de Nissan en Europe sera composée exclusivement de multisegments électriques, le Juke, le Qashqai, l'Ariya et le X-Trail, ainsi que le véhicule qui remplacera la Leaf.
Il n'y a pas juste des voitures, avec Philippe Corbeil.
Cette semaine, je vous parle de bateaux électriques. La saison de bateaux vient de prendre fin au Québec, mais c'est justement le meilleur temps pour commencer son magasinage de bateaux pour la saison 2022. Je vais donc vous parler d'une nouveauté électrique chez Zodiac, ainsi que de l'arrivée au Canada du bateau de la compagnie suédoise X-Shore. Commençons avec la nouveauté chez Zodiac, le e-Open. La compagnie Zodiac n'a pas vraiment besoin de présentation car ils sont en affaires depuis 120 ans et tout comme Frigidaire et Kleenex, leur nom est devenu commun et lorsqu'on pense Zodiac, on pense à un bateau pneumatique gonflable. C'est à la fin septembre que Zodiac a fait le lancement de son nouveau bateau 100% électrique, le e-Open. Il s'agit de la version électrifiée de leur gamme de bateaux appelée Open. L'électrification du bateau a été faite en collaboration avec la compagnie Torqueedo, spécialisée en motorisation électrique marine. C'est le deuxième bateau 100% électrique de Zodiac, car ils avaient lancé en 2017 la version électrique de leur modèle jet, le E-Jet. Ce dernier est un bateau propulsé par une turbine. Pour les Open, on utilise une configuration plus commune d'un moteur hors-bord. Le E-Open est disponible en deux grandeurs, 3,1 et 3,4 mètres. Soit 10 et 11 pieds. Il s'agit donc d'un petit bateau pneumatique à coque rigide auquel Zodiac a intégré un moteur Torqueedo de 12 chevaux et un ensemble batterie Torqueedo 48-5000 qui a 5 kWh de capacité. Cela permet au bateau de naviguer jusqu'à 50 000 nautiques à 5 nœuds ou encore 50 minutes à pleine vitesse. La vitesse maximale atteignable est de 14 nœuds, soit 24 km/h. Il faut 6 heures pour faire une recharge de 0 à 80% avec un chargeur régulier et 1 heure avec leur chargeur rapide. L'idée derrière le e-Open est d'offrir un bateau 100% électrique à prix accessible et le prix annoncé est de 21 000 euros, soit environ 30 000 $ canadiens. Maintenant, changeons un peu de catégorie pour aller chez la compagnie suédoise X-Shore qui arrive au Canada via l'entremise du distributeur de bateaux BCI Marine. X-Shore a développé un bateau haut de gamme 100% électrique, performant tant au niveau de l'autonomie que des vitesses atteignables sur l'eau. On parle d'un bateau qui peut atteindre 35 nœuds, ce qui équivaut à 65 km/h, ce qui est rapide sur l'eau. Le responsable de BCI Marine me disait que le modèle d'affaires d'X-Shore est actuellement d'offrir des bateaux haut de gamme pour éventuellement arriver dans quelques années avec des modèles de bateaux électriques un peu plus abordables, un peu comme l'a fait Tesla dans l'automobile. Avec son modèle Helix 8000, Exshore nous arrive avec un bateau de 26 pieds conçu de A à Z pour fonctionner à l'électricité et la coque a été dessinée pour être performante sur l'eau et pour contenir efficacement toutes les composantes nécessaires au fonctionnement d'un bateau électrique. Le moteur et les batteries ont été développés spécifiquement pour le Exshore avec l'aide d'un partenaire externe. Le moteur a une puissance de 220 kW, ce qui représente environ 300 chevaux, et il est jumelé à deux batteries de 60 kWh refroidies par liquide. Le bateau offre 20 heures d'autonomie de navigation si on va à une vitesse entre 8 et 10 nœuds. Toutefois, si on exploite au maximum la puissance et qu'on roule à 35 nœuds, le bateau peut nous offrir 1h30 à 1h45 d'autonomie. Pour la recharge, le système électrique de la plupart des marinas peut offrir une recharge de 20% à 90% entre 10 et 12 heures, et si on va sur une recharge en courant continu de type niveau 3, on peut recharger le bateau à 100% en environ 2h30 sur une recharge à 55 kW et aussi rapidement qu'en 40 minutes pour une recharge de 20 à 80% à une puissance de 100 kW. Le bateau a été pensé d'un point de vue écologique et incorpore des matériaux recyclés et il est lui-même 100% recyclable. Le bateau est connecté à Internet, ce qui permet les mises à jour instantanées ainsi que de permettre la géolocalisation et le geofencing tout en procurant la gestion du bateau via une application qu'on peut utiliser sur la montre Garmin Mark Captain ou encore une application sur son téléphone intelligent. Le contrôle des fonctions du bateau se fait via un système Garmin à écran tactile de 24 pouces. Le prix de départ du bateau est de 415 000 $ et on m'assure chez BCI Marine que si vous commandez votre bateau maintenant, vous allez le recevoir en 2022 car on a réservé des unités de production spécifiquement pour le Canada. Le Exshore sera visible lors du prochain salon du bateau à Montréal en février. C'était donc là quelques nouveautés dans le domaine nautique électrique et on se reparle prochainement dans ma chronique car il n'y a pas juste des voitures.
EV Borne, à la maison en condo. EV Borne, vos subventions. EV Borne, branché au travail.
Hey Martin, on répète-tu trop le nom de la compagnie?
Ou un petit peu trop, je la refais. Pour recharger, ça prend une borne de recharge et l'équipe de EV Borne est à votre service. Pour vous brancher au commerce, à la maison ou au travail, composez le 418-866-0653, 418-866-0653 ou le www.evborne.com. EV Borne, la passion à votre service. Alors aujourd'hui, on va s'entretenir avec M. Stéphane Pascalon, qui est directeur de projet électrification des transports à la Fondation québécoise d'éducation en sécurité routière. Bienvenue, M. Pascalon.
Bonjour.
Aujourd'hui, on va parler particulièrement du projet e-Roule, évidemment qu'on va définir, mais avant d'aller plus loin, juste pour que les gens comprennent bien, donc vous travaillez comme directeur de projet de la Fondation québécoise d'éducation en sécurité routière. Qu'est-ce que c'est que cette fondation et quel est son but, son objectif?
Alors, la Fondation québécoise d'éducation en sécurité routière est un organisme à but non lucratif qui a pour objectif d'aider et d'accompagner les écoles de conduite et tout ce qui va autour des écoles de conduite pour améliorer les notions en sécurité routière. Et aussi, on a un volet qui touche l'électrification des transports et donc qui a pour objectif d'aider la transition vers l'électrification des transports dans le domaine de l'éducation sur la conduite.
Bon, et par votre titre, je conclus que c'est ce volet qui vous touche plus particulièrement. Donc, on va parler aujourd'hui d'une initiative fort intéressante que vous avez mis de l'avant, qui est le projet e-Roule. Décrivez-nous là, ce qu'est ce projet e-Roule et qu'est-ce que ça vise.
Alors, le projet e-Roule est un projet qui a débuté fin 2020, qui a pour les deux prochaines années pour objectif de déployer à travers 100 écoles de conduite au Québec plus de 200 véhicules électriques afin de permettre aux jeunes d'avoir l'opportunité d'apprendre à conduire sur des voitures 100% électriques. L'objectif de ce projet qui est soutenu par le ministère des Transports, c'est vraiment de donner la chance à ceux qui d'habitude ne peuvent pas le faire parce que les jeunes ont peu d'opportunités d'essayer des véhicules électriques, aussi bien chez les concessionnaires que dans les salons ou quoi que ce soit. C'est des opportunités rares pour eux. Donc là, ils ont l'opportunité d'essayer ces véhicules et de pouvoir se faire leur propre opinion sur ce qu'est les véhicules électriques.
Donc, puis j'essaie de le résumer là, vraiment haut niveau pour monsieur, madame, tout le monde. Ça veut donc dire que vous accompagnez forcément un certain nombre d'écoles de conduite au Québec à faire une transition totale ou partielle, vous pourrez l'expliquer, vers des véhicules d'apprentissage à la conduite, donc des véhicules adaptés au cours de conduite. Donc, on a tous souvenir là, du véhicule avec une pédale de frein du côté du passager pour l'instructeur, etc. Donc, on va avoir des véhicules pour apprendre à conduire de ce type, électrique, et ça va permettre par le fait même à ce que les futurs conducteurs puissent se familiariser, pas juste avec la conduite automobile avec une voiture électrique, et espérons-le, opter pour ce mode de transport sur leur premier véhicule.
Oui, mais c'est ça. En fait, on travaille avec les gestionnaires des écoles de conduite. Donc, en fait, il y a certaines écoles qui avaient la volonté de regarder les véhicules électriques qui ont appliqué sur le projet. Et donc, il y a une centaine d'écoles qui ont été retenues. Parmi ces écoles, on a rencontré les gestionnaires, on a travaillé avec eux pour les aider à choisir les véhicules, à choisir les bornes de recharge qui sont adaptées. Et ensuite, on a mis en place un projet avec différents fournisseurs pour pouvoir installer les doubles commandes sur ces véhicules-là et les mettre en place. On accompagne aussi l'école de conduite en faisant une formation auprès des moniteurs et des instructeurs pour leur expliquer quelles sont les spécificités des véhicules électriques. Parce qu'eux-mêmes, il faut qu'ils enseignent après sur ce véhicule électrique auprès des jeunes. Donc, il faut qu'ils comprennent quelles sont les spécificités et les quelques différences qu'il y a. C'est relativement minime, donc c'est relativement simple à expliquer. Mais il y a quand même beaucoup de notions autour du véhicule électrique que les moniteurs doivent acquérir. Donc, on leur amène ces notions-là pour qu'ils soient beaucoup plus à l'aise après dans leur enseignement. Vous l'avez dit tout à l'heure, on vise dans toutes les écoles à mettre des véhicules électriques. Donc, ça veut dire que c'est au moins un véhicule dans la flotte de chacune des 100 écoles. Mais on a quand même 10 écoles dans le projet qui sont 100% électriques, c'est-à-dire que l'ensemble de la flotte et l'ensemble des cours dans ces 10 écoles se donnent sur des véhicules électriques.
Wow! OK, ben c'est vraiment un beau tournant. Et ça amène, je pense, son lot de questions parce que, encore une fois, on essaie de faire le parallèle avec ce que nous, on a vécu. Évidemment, les choses changent, mais j'ai quand même des enfants qui ont tout juste passé leur permis de conduire et d'autres qui vont bientôt entrer dans le processus. Il y a toujours un volet lors de la formation. Évidemment, il y a l'aspect pratique. Donc, on comprend bien qu'avec un véhicule électrique, la pratique va se faire avec un véhicule qui va être électrique. Mais il y a aussi un volet théorique dans un cours de conduite. Est-ce que l'avènement de la voiture électrique dans l'école de conduite et faisant partie intégrante maintenant de la façon d'apprendre amène des modifications au niveau des aspects théoriques? Par exemple, est-ce qu'on va enseigner en classe comment fonctionnent les bornes de recharge? Est-ce qu'on va enseigner les particularités ou les trucs auxquels on doit faire attention sur une voiture à essence, mais qu'on n'aura plus besoin de faire attention avec une voiture électrique parce que ça n'existe plus et vice-versa? Moi, je me rappelle, on nous montrait comment faire certaines vérifications mécaniques de base. Ça devient un peu désuet, non? Ou est-ce qu'on l'enseigne tout de même si jamais le jeune conducteur utilise une voiture à essence par la suite?
Alors, en fait, c'est ça. Le cours continue d'être un cours pour apprendre à conduire. Donc, on apprend des notions générales sur la conduite. Dans les cours théoriques, il y a des spécificités pour les véhicules électriques qui sont amenées de manière très légère à travers les différents cours. Mais on n'a pas radié tout ce qui est les véhicules à essence parce qu'évidemment, il y a encore beaucoup de gens qui vont encore utiliser des véhicules à essence pendant un certain temps. Donc, et puis surtout, ces cours-là sont faits et fixés, le contenu de ces cours-là est défini par la SAQ et la QTR qui, eux, définissent le contenu de ces cours-là. Donc nous, on ne vient pas modifier ces cours-là, on vient simplement bonifier ces cours-là en ajoutant une information spécifique sur les véhicules électriques. Donc, pour l'instant, le nombre de cours théoriques reste le même, c'est toujours 12 cours théoriques. On aborde différentes notions, mais c'est certain que la recharge des véhicules électriques, elle n'est pas abordée de fond en comble pendant un chapitre complet d'une heure, parce qu'on n'a pas le temps de l'expliquer dans le cursus. Donc, il y a certains éléments qui sont apportés. On explique l'importance de garder son port de recharge propre, de s'assurer qu'on puisse recharger le véhicule convenablement, etc. Donc, il y a certaines petites notions qui sont amenées et beaucoup de liens ou de vidéos qui sont créés en parallèle que les jeunes qui veulent pousser un petit peu plus loin leur savoir-faire peuvent aller voir. Et donc, à ce moment-là, en regardant les vidéos, ils vont en apprendre un petit peu plus. Mais dans le cours en tant que tel, le contenu ne peut pas être changé parce que lui, il est défini par la SAQ qui ne change pas ses règles comme ça tant que tous les véhicules ne sont pas électriques.
D'accord. Et compte tenu, vous avez parlé d'une centaine d'écoles qui sont touchées par le programme, que ce soit un véhicule ou plusieurs véhicules. Si, par exemple, j'ai un jeune qui est intéressé à prendre son cours de conduite et qui veut s'informer à savoir si dans notre région, une des écoles qui a pignon sur rue participe au projet pour augmenter ou avoir la chance d'apprendre sur un véhicule électrique, est-ce qu'il y a, vous avez une liste de ces écoles-là?
Oui, mais en fait, le meilleur moyen pour trouver la liste des écoles qui ont des véhicules électriques, c'est d'aller sur le site web du projet. Donc, c'est e-roule.com qui permet à ce moment-là de trouver toutes les écoles qui sont actives. Donc, on peut choisir par région ou quoi que ce soit. On est actuellement présent dans l'ensemble des régions du Québec pour offrir de la formation. C'est certain qu'il y a certaines régions qui ont plus d'écoles, d'autres, c'est un petit peu moins. Mais on a quand même la chance d'avoir des écoles, j'allais dire, de Sherbrooke à Baie-Comeau, jusqu'en Abitibi, et même dans le nord du Québec, il y a une école qui va avoir un véhicule électrique très prochainement à la Baie-James. Donc, on est vraiment partout à travers le Québec.
Et comment, par exemple, si j'ai une école de conduite dans ma région qui a une voiture électrique, qui participe au programme et qui a une voiture électrique, est-ce qu'au moment de mon inscription, je peux m'assurer que je vais apprendre sur cette voiture-là ou comment on détermine quel jeune va être attitré à la voiture électrique du programme?
Alors, en fait, bon, chaque école a un petit peu son système de fonctionnement. Il n'y a pas de règle en particulier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que un cours de conduite, c'est 15 heures de pratique pour les jeunes dans l'école de conduite. Et sur les 15 heures de conduite, il n'est pas toujours avec le même moniteur et pas toujours avec la même voiture. Donc, en fait, la façon dont les écoles vont répartir ça, c'est qu'elles vont s'assurer que pendant le cursus de l'élève, il fasse un minimum de 2, 3 ou 4 cours sur le véhicule électrique. Peut-être qu'il aura la chance d'en faire plus, mais on s'assure qu'il y a un minimum. Donc, en fait, quand les écoles ont en moyenne au moins un tiers de leur flotte avec des véhicules électriques, donc le ratio de un tiers, si on divise les 15 cours par un tiers, il y a 5 cours sur des véhicules électriques. On voudrait c'est que les jeunes puissent vraiment mesurer la différence entre les deux. Les différences majeures qu'il y a entre un véhicule électrique et un véhicule à essence, c'est l'absence de bruit, c'est la gestion de la régénération et la gestion de la recharge. C'est ces facteurs-là qu'on apprend après faire un angle mort dans un véhicule électrique ou dans un véhicule à essence.
C'est la même chose.
Ouais. Donc, c'est vraiment ces volets-là sur lesquels on insiste. Et donc, quand les jeunes ont eu l'opportunité pendant 2 ou 3 heures de tester la conduite à une pédale avec la régénération d'énergie, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'ils rentrent chez eux et puis qu'ils appliquent la conduite à une pédale sur la voiture à essence parce que ça ne marche pas. Hein, et puis ils pratiquent encore avec la voiture de leurs parents. Donc, ce qu'on voudrait, c'est qu'ils aient ces notions, qu'ils comprennent en quoi ça consiste et puis qu'après, s'ils ont le goût d'aller plus loin, qu'ils poussent leurs parents à avoir un véhicule électrique ou bien qu'eux-mêmes s'en achètent un, mais qu'ils comprennent ces concepts-là de manière concrète et non pas de manière purement théorique.
D'accord. Une autre question qui me vient en tête, c'est évidemment, il passe beaucoup d'apprenants dans une école de conduite. Donc, si l'école a 1, 2, 3 voitures, ça veut dire qu'au bout d'une année, par exemple, le programme aura permis à beaucoup de jeunes de toucher à une voiture électrique. ou encore plus si on le transfère en termes de kilomètres parcourus en voiture électrique avec tous les déplacements qui sont demandés ou requis pour l'apprentissage de la conduite, ça représente également beaucoup de kilomètres qui vont être faits à l'électricité plutôt qu'à l'essence. Est-ce que vous avez quantifié ou chiffré le nombre de personnes qui vont être sensibilisées par votre programme dans une année, par exemple, ainsi que le nombre de kilomètres parcourus qui vont être faits de façon plus carboneutre?
Alors, en fait, oui, on l'a chiffré, c'est à peu près 15 000 jeunes par an qui vont être sensibilisés. Sur les deux ans du projet, ça va être 30 000 jeunes qui vont toucher aux véhicules électriques. Actuellement, on n'a pas encore tous les véhicules en place dans toutes les écoles, mais on fait en moyenne près de 250 000 km par mois en véhicules électriques. Donc, on est rendu à plus de 1,6 million de kilomètres depuis le début du projet en véhicules électriques, ce qui correspond à une réduction des GES de plus de 30 tonnes en date d'aujourd'hui, donc après à peine 9 mois de projet. On a quantifié tout ça, et en fait, c'est ces chiffres-là qui intéressent le ministère des Transports. L'objectif étant à la fin d'accélérer notre réduction des gaz à effet de serre.
Tout à fait. Et je ne peux m'empêcher de faire un parallèle en disant souvent, on explique les bienfaits de la mobilité électrique, puis on a souvent tendance à regarder uniquement le transport individuel, mais on explique souvent que le transport en commun, les taxis, toutes les situations, le transport de marchandises, toutes les situations qui impliquent beaucoup de véhicules, ça représente des tonnes ou des quantités colossales de tonnes de gaz à effet de serre qui ne seront pas émis. Puis on le visualise difficilement ou on se l'imagine difficilement. Alors de voir là, le nombre que simplement par un projet pilote d'une centaine d'écoles, on est en haut d'un million de kilomètres parcourus. Tu sais, je suis persuadé que les gens ne s'imaginent pas l'ensemble des écoles de conduite au Québec, le nombre de millions de kilomètres sur les routes que ça peut représenter en une année. Puis c'est pas une industrie qui est très, très, très grosse comparativement du transport de marchandises, par exemple, ou les taxis, c'est phénoménal comme nombre de kilomètres.
Oui, en fait, ça s'accumule très vite, mais les auto-écoles roulent quasiment tous les jours. Là, c'est pas 7 jours sur 7, mais pas loin. C'est souvent 6 jours sur 7 dans les écoles que ça roule. Et en moyenne, vont parcourir pour chaque véhicule de 100 à 250 km par jour. Donc, si on accumule ça, ça va assez vite. Dès qu'on rajoute un facteur 100 là-dessus, on se rend compte qu'on parcourt rapidement des milliers de kilomètres. Et donc, actuellement, comme je vous dis, en moyenne, sur les un peu plus de 100 véhicules qu'on a en circulation, on accumule plus de 200 000 kilomètres par mois en véhicules électriques. Donc ça, c'est vraiment une grosse réussite. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'essai routier, entre guillemets, que le jeune fait dans le véhicule, il ne dure pas 15 minutes comme dans un salon. Là, c'est vraiment une heure de conduite qu'il a à chaque fois. Donc, c'est vraiment un essai complet d'apprentissage, de mise en situation réelle pendant une heure. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de notions qui sont acquises par les jeunes à ce moment-là, et ils comprennent beaucoup mieux qu'est-ce que c'est que le véhicule électrique. Et donc, ils sont à même de pouvoir en parler. Ils vont devenir tous des références. Et puis, peut-être qu'ils vont expliquer ce qu'ils n'aiment pas, mais au moins, ils vont l'avoir vécu. Ça ne sera pas en ayant entendu quelque chose de quelqu'un d'autre.
Oui, tout à fait. Personnellement, je trouve que c'est un projet qui est extraordinaire dans à la fois sa portée et l'angle avec lequel on aborde ça. Là, je trouve que c'est vraiment une idée de génie. Écoutez, on arrive déjà à la fin. En conclusion, j'aimerais peut-être... Là, on parle de 100... Le projet visait 100 écoles de conduite. Est-ce qu'il y a des visées pour l'étendre pour les prochaines années? Quelle est la suite pour ce projet-là dans les prochaines années?
Alors, en fait, nous, à la fin du projet, il va y avoir un rapport qui va être remis au gouvernement pour expliquer un peu les enjeux pour l'industrie pour faire cette transition, qu'est-ce qui est nécessaire, quelles sont les difficultés ou les obstacles qui pourraient se dresser sur le chemin des différents gestionnaires pour assurer une transition complète de la flotte. Et puis, nous, ce qu'on aimerait, puis là, on est en discussion avec le gouvernement, ça serait d'élargir ce projet à toutes les écoles de conduite à travers le Québec, avec pour objectif, probablement, d'ici 2025, d'avoir au moins la moitié de la flotte des écoles de conduite en véhicules électriques. et qu'en 2030, on ait la totalité qui soit sur des véhicules électriques. Okay. Puisqu'on sait tous qu'en 2035, il ne sera plus possible d'acheter des véhicules à essence neuf. On pense que les jeunes, s'ils apprennent à conduire sur des véhicules électriques, ils seront plus à même de choisir les bons véhicules par la suite assez rapidement.
Tout à fait. Alors, on rappelle que si vous voulez avoir plus d'informations sur le projet, vous pouvez visiter le e-roule.com. Alors, vous allez avoir là toute l'information sur à la fois le programme, les écoles de conduite qui sont touchées et qui pourront vous permettre d'apprendre à conduire avec un véhicule électrique. Stéphane Pascalon, directeur de projet électrification des transports à la Fondation québécoise d'éducation en sécurité routière. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui.
Merci à vous. Bonne journée.
C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livrée depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de la VEC.
Arleco Génération 3, 8470 Boulevard Parkway à Anjou. 514-352-1446 ou arleco.ca.
Arleco, servir au-delà de la réparation.
Chronique Innové avec Philippe Calvé.
Pour ma chronique aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec M. Jérôme Claverie, professeur titulaire de la chaire de recherche du Canada en chimie des matériaux organiques et hybrides avancés, ainsi que M. Vincent Saint-Onge, étudiant en doctorat en chimie et professionnel de recherche dans cette chaire. Aujourd'hui, on va parler de batteries tout solides ou communément appelées les solid state. Donc, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui au podcast.
Merci.
Donc, plusieurs de nos auditeurs conduisent des véhicules électriques, connaissent pas nécessairement ce que c'est des batteries tout solides. Donc, la question, c'est quelles sont les différences et avantages d'une batterie tout solide versus lithium-ion, ce qui est standard dans nos véhicules actuels?
En fait, faut savoir que les technologies de batterie lithium-ion actuellement dans les véhicules utilisent, évidemment, il y a les électrodes qui ont de la matière active. Mais il y a entre les deux électrodes, donc le plus et le moins, entre les deux, il va y avoir un électrolyte liquide. Cet électrolyte-là, en ce moment, c'est un solvant organique qui est malheureusement volatile et inflammable. Donc, il y a, avec ça, en fait, vient des risques de prise de feu, donc des risques pour la sécurité des gens qui conduisent les voitures électriques. Puis, il y a également des risques de fuite au niveau de l'électrolyte. Donc, si on vient endommager l'étui, en fait, de la batterie, il peut y avoir des fuites à ce moment-là. Alors que pour la batterie tout solide, compte tenu que l'électrolyte est un solide, il n'y a aucun risque de fuite. Donc, on vient grandement améliorer l'aspect sécuritaire de la batterie.
Fait que c'est sûr qu'on l'a vu là, dernièrement, des certains véhicules qui ont pris en feu. C'est sûr que bon, on s'entend qu'il n'y a pas des feux à tous les jours non plus, puis comparaison à des moteurs thermiques, c'est autre chose, ça va. Mais quand même, on est capable de l'améliorer, ce que je comprends avec cette technologie-là, donc la sécurité. Puis, est-ce qu'il y a autre chose là, au niveau de la batterie tout solide là, qui est un avantage? Parce que j'imagine que ce n'est pas seulement la sécurité, il doit y avoir autre chose.
Je ne sais pas, Jérôme, si tu veux sauter dans la discussion.
Oui, donc parmi les avantages des batteries tout solides, c'est important de mentionner aussi que c'est quand même plus facile de transporter un solide qu'un liquide. Hein, donc, vous avez tous fait l'expérience de prendre une casserole pleine de liquide et puis la transporter sur une centaine de mètres. Donc le transport du liquide, ça demande vraiment des technologies d'encapsulation. qui sont évidemment étanches, et ça coûte cher. C'est quelque chose qu'on maîtrise évidemment très bien depuis des années, mais qui donne un coût supplémentaire. Alors qu'un transport d'un solide, ça se fait vraiment de façon plus simple. Donc ça va permettre d'arriver à faire des batteries avec des formes qui vont être différentes. Donc on ne va pas être obligé d'avoir l'aspect batterie qu'on connaît, qui est la cellule un peu rectangulaire avec des électrodes qui trempent dans un milieu liquide et qui sont séparées par une membrane souvent polymérique pour donner un petit peu de dureté. Ça va être, on pourrait imaginer des formes complètement, par exemple des batteries qui sont sur un tissu qui sont beaucoup plus souples. C'est pas impossible, même si ça pose un problème pour les solides. Les solides sont pas réputés pour leur souplesse. Mais donc ça ouvre quand même beaucoup d'autres designs de batteries que ceux auxquels on pense. Alors pour l'automobile, je pense qu'on va quand même très probablement rester sur le modèle qu'on connaît, hein, qui est la boîte cellulaire qui contient des dizaines et des dizaines de cellules indépendantes.
Merci, c'est intéressant quand même. Ça veut dire que ça peut sortir de la voiture seulement. Là. C'est intéressant. Puis, dans le fond, quels sont les défis à développer et ensuite fabriquer des batteries tout solides? Ça va être différent d'une batterie de lithium-ion, j'imagine.
Oui, en effet, c'est quand même, désolé, c'est quand même assez différent. En fait, il faut savoir qu'au niveau de la batterie tout solide, un des principaux défis, si je dirais ça ainsi, c'est le fait que souvent avec les solides, on va avoir une conductivité des ions. Donc, en fait, les ions, pour que la batterie puisse fonctionner, les ions doivent bouger entre les électrodes. Et dans les solides, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des mouvements pour ces ions-là. Donc, c'est une des principales difficultés. Mais il y a également le problème qu'avec des solides, on va avoir des contacts aux interfaces avec les électrodes qui vont être aussi beaucoup plus difficiles. Ça va être plus difficile d'avoir un bon contact avec les électrodes. Comparativement à un liquide, on sait que les liquides vont facilement mouiller les surfaces, tandis que si on met deux solides un sur l'autre, le contact ne sera pas aussi bon. Donc, je dirais que c'est principalement les défis à relever par rapport au développement des batteries tout solides.
Effectivement. Puis au niveau, on a vu dans les médias dernièrement là, que vous avez fait une percée particulière à l'Université de Sherbrooke. Dans le fond, quelle est cette percée-là? Puis qu'est-ce que vous avez fait de différent peut-être des autres chaires de recherche là, à travers le monde?
Oui, mais en fait, la percée qu'on a fait principalement à ce niveau-là, c'est au niveau du... En fait, ce qu'on a utilisé, c'est en quelque sorte un plastique, donc un polymère. Puis, pour briser le fait qu'il soit dur, donc qu'il soit cristallin, ce qu'on a fait, en fait, on a ajouté en quelque sorte des défauts à l'intérieur de cette matrice-là. Puis, ce que ça nous a permis d'obtenir, c'est un solide relativement mou, mais tout de même solide, dans lequel les ions sont en mesure de migrer, donc de bouger. Et ce faisant, en fait, on peut faire ça à 25 degrés Celsius. Dans la batterie qu'on a également développée, on a utilisé une anode, donc l'électrode moins, qui est en lithium métallique, ce qui nous permet d'avoir une capacité plus grande d'énergie.
Peut-être pour prendre la seconde partie de la question de Philippe sur qu'est-ce qui se passe dans les autres chaires de recherche ou même dans le monde. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que le vocable batterie solide, en fait, regroupe un grand nombre de technologies différentes. Il y a la batterie ou le solide, c'est un polymère, c'est ce que nous avons utilisé. En fait, c'est des batteries qui existent depuis un grand nombre d'années, hein, depuis les années 80, mais qui ont été complètement, qui ont pas marché et qui donnaient justement ces feux catastrophiques. Parce que c'était les premières versions des polymères. Et puis nous, notre percée, c'est de faire la deuxième version qui, elle, marche et qui marche à température ambiante.
Donc, ça veut dire que ce que je comprends, c'est que vous, de votre côté, vous êtes dans les batteries polymères. Et là, vous parlez du coût. Ça veut dire que, dans le fond, le coût reste encore à déterminer, à savoir si ça fonctionne. C'est ce que je comprends. Fait que, ben écoutez, parlons de coûts un peu. Ça m'amène peut-être à l'autre question qui est par la suite. On sait que Tesla, l'année passée, a annoncé à grande pompe son Battery Day. Il y a beaucoup de gens qui regardent ça d'en avant. Je ne pense pas que c'est des batteries solides à ma connaissance. Par contre, comment ça se compare un peu avec ce qui a été annoncé de leur côté?
Oui, ben en effet, d'abord, effectivement, ce qui a été annoncé par Tesla, ce n'était pas des batteries solides. Du moins, pas tout solide. Par contre, ils ont mis l'accent un peu sur la mise en forme, si je pourrais dire, des composantes de la batterie. Donc, je me souviens qu'ils ont annoncé ce qu'ils ont appelé le « dry process », donc un procédé sans solvant pour la mise en forme de la cathode, donc l'électrode positive. Ils ont annoncé également des changements au niveau de la matière active pour l'anode, donc l'électrode négative. Tout ça dans le but d'augmenter en fait la capacité des batteries et de réduire les coûts de production considérablement. Et évidemment, eux ne se sont pas centrés sur l'électrolyte, alors que nous, de notre côté, c'est surtout en fait sur ça qu'on va s'être centré. En fait, moi, je le verrais plus comme une complémentarité au niveau de ce que Tesla va avoir annoncé.
Et puis, si je peux rebondir sur ce que tu dis, Vincent, je pense aussi, ce qu'il faut voir, c'est un peu lorsque Tesla fait le Battery Day, ça veut dire qu'en fait, dans leur carton, ils ont déjà la solution, hein, mais elle est prête à être implémentée dans les Tesla qui vont sortir cette année, l'année prochaine. Et c'est formidable, je veux dire, c'est formidable de voir toutes ces compagnies. Il n'y a pas que Tesla qui innove aussi rapidement. Nous, c'est sûr qu'on est, il faut rester modeste, on a proposé une clé de solution sur un problème qui avait complètement miné le domaine des batteries solides pendant près de 45 ans quand même. Donc, on en est aux 40 ans, on en est très fiers. Mais on a la clé de la solution, donc on peut ouvrir la porte, mais maintenant, il faut l'ouvrir. Et puis, il faut faire les batteries avec. Et ça, c'est un autre défi. Donc, il nous manque... encore, je dirais, 2, 3, 4 ans d'ingénierie. On se croise les doigts et on est très enthousiaste. On va tout faire pour que ça le soit.
Donc là, justement, c'est un peu la question de dire, vous parliez de quelques années. Quelles sont les prochaines étapes là, pour voir des batteries tout solides dans nos véhicules?
Donc moi, je crois que dans ce genre de travail, les étapes suivantes, c'est la production grande échelle, la mise en œuvre, la production grande échelle et la durabilité. Donc, c'est trois défis principaux. En fonction de ça, on a évidemment après l'aspect commercial, hein, quel coût ça va être, parce que la technologie ne sera pas adaptée si elle n'est pas compétitive ou si elle n'apporte pas un avantage majeur par rapport aux technologies existantes. Donc, ça, bon, ben, on verra. Okay. Donc, c'est ça. Et on sait, je veux dire, l'industrie est quand même bien équipée pour prédire que ça, c'est quelques années de travail. Si au bout de quelques années, il n'y a pas la solution, on ne peut pas les mettre en œuvre, on ne peut pas les produire à grande échelle, ben, on se désintéressera de ça. Donc, moi, je serais curieux que dans 3-4 ans, on se reparle et puis qu'on soit plus sur le podcast innovation, mais le podcast produit sorti ou même jugement des produits du passé, puis voir si on en fait partie.
Ben, c'est super intéressant. J'espère effectivement que vos technologies vont se retrouver dans les produits bientôt, puis qu'en fait, on sait que l'Université de Sherbrooke, dans le passé, a déjà innové là, dans les systèmes de téléphone cellulaire. On espérait peut-être avoir une percée dans les batteries de véhicules électriques. Je pense qu'il y a un bel écosystème qui est en train de se mettre en place aussi au Québec avec plusieurs entreprises. Donc, écoutez, je vous souhaite la meilleure des chances. J'espère que votre technologie va être capable de percer. Puis peut-être au plaisir de se parler dans quelques années. Merci pour votre participation.
Merci beaucoup. Merci. Ça m'a fait plaisir.
Comprendre son auto en 60 secondes, top chrono. Certaines personnes sont dans l'impossibilité d'installer une borne de recharge à domicile parce qu'ils vivent en multilogement, en condo par exemple ou en appartement. Donc, est-il possible de toujours se charger sur des bornes de recharge publiques sans conséquence? Ben, sachez que si on parle de borne niveau 2, que ce soit une borne niveau 2 que vous installez à la maison ou une borne niveau 2 publique, il n'y a aucune différence, donc il n'y aurait aucun inconvénient théoriquement à vous charger toujours sur ces bornes publiques.
Par contre, lorsqu'on parle de bornes rapides, évidemment, il est préférable de se charger sur une borne niveau 2, du moins à une fréquence régulière, pour permettre le balancement des cellules de la batterie. En effet, sur la majorité des modèles de voitures électriques, il n'est pas possible de balancer la charge sur les cellules des batteries des véhicules lorsqu'on se charge uniquement sur des bornes rapides. Alors, si on n'a pas de borne à la maison, on peut se charger sur des bornes rapides, disons 80-90% du temps, mais une fois de temps en temps, aller se charger sur une borne niveau 2 permettra d'effectuer ce balancement de cellules. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Du 22 au 24 octobre, c'est le Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe au centre BMO. Toutes les informations sont sur le site web de l'événement. Le dimanche 24 octobre, donc dans le cadre du salon, il y aura En route vers le record Guinness du plus grand défilé de voitures 100% électriques. C'est une tentative de battre le record Guinness. Vous avez toutes les informations pour vous inscrire sur le site web de l'Association des véhicules électriques du Québec. Du 25 au 30 octobre 2021, c'est la semaine nationale du véhicule électrique dans le cadre de la campagne Roulons électriques. Il y aura des essais routiers chez les concessionnaires participants ainsi que des webinaires thématiques d'information sur les voitures électriques. Ceci conclut la présente balado-diffusion. Silence on roule remercie tous ses collaborateurs et invités aujourd'hui, particulièrement Philippe Calvé, Vincent Saint-Onge, Jérôme Claverie, Philippe Corbeil ainsi que Stéphane Pascalon. Nous remercions également le Garage Arlecot, commanditaire principal ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec, partenaire de Silence on roule. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Et toutes les questions concernant l'émission peuvent être adressées à martin@silenceonroule.com. Pour les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info@aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEQ, visitez le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au archives.silenceonroule.com. Le prochain épisode diffusé sera la 100e qui a été captée devant public lors du Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe. Un épisode tout spécial qui trace les 5 ans, les 100 premiers épisodes de Silence on roule, l'histoire, des bloopers, des invités spéciaux. Manquez vraiment pas ça, ça va être un épisode à conserver dans nos mémoires pour longtemps. D'ici là, mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, Silence on roule!